dans l'émission Route 66, l'émission du blues et des music roots américaines sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Et oui, salut à tous, avec une émission qui aujourd'hui reprend tranquillement son rythme de croisière après avoir reçu de nombreux invités, hein, et notamment la semaine dernière, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous en souvenez sans doute de la venue exceptionnelle de Neil Black et Fred Chapelier qui nous avaient vraiment offert une émission absolument délirante. Alors aujourd'hui, le sujet restera ancré dans le blues français, avec la diffusion d'une partie de l'interview que Monsieur Bill Derem m'avait accordée au mois de février dernier. Alors cette interview fera l'objet de deux émissions spéciales et encore malheureusement je n'aurai pas le temps de tout caser hein, tant celle-ci était dense, mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur notre site internet sur laroute66.free.fr où elle est retranscrite en intégralité. Alors Monsieur Bill Derem, on le retrouve dans quelques minutes, mais on va commencer comme il se doit avec une nouveauté, à savoir un jeune groupe qui pratique le blues du Mississippi comme on le fait aujourd'hui, à l'instar des artistes tels que Richard Johnston ou encore les North Mississippi All Stars, dont certains membres viennent justement prêter main forte à ce duo qui s'appelle Moreland and Arbuckle. L'album s'appelle 1861 en français, il paraît sur le label Northern Blues Records, distribué en Europe par Soka Disc, et le titre que je vous propose d'écouter tout de suite en introduction à cette émission s'appelle Gonna Send Ya Back to Georgia. C'est parti. We'll be right back.
break up my happy home.
This is Pura Fe, and you're listening to Route 66 Radio RDL 103.5 FM.
Elle porte haut les couleurs de la communauté amérindienne à travers le monde. C'est une femme absolument passionnante. Elle s'appelle Pura Fe. Et c'est un morceau extrait de son album All the Rain, son dernier album en date paru sur le label Dixie Frog. Le titre était Little Girl Dreaming. Pura Fe, j'ai eu la chance de l'interviewer il y a de cela quelques jours lors de l'un de ses concerts, juste avant d'ailleurs. Vous aurez l'occasion de découvrir cette interview sur notre site internet d'ici quelques temps. Et puis bien sûr, avant l'été, nous lui consacrerons une émission spéciale durant laquelle on diffuse diffusera toute l'interview. Maintenant, le moment est venu de passer au sujet principal de l'émission. Je vous propose une bonne quarantaine de minutes en compagnie de Monsieur Bill de Rheim, l'un des pionniers du blues en France, l'un des plus grands bluesmen français actuels, un type absolument charmant. Il m'avait reçu chez lui au mois de février dernier dans son domicile parisien. Un accueil extrêmement chaleureux à l'image du bonhomme, qui est également très intéressant, hein, puisque outre la musique, il s'investit dans de nombreuses associations, il vient en aide aux plus malheureux d'entre nous, c'est vraiment un homme au grand cœur. Il revient enfin à travers un nouvel album qui paraîtra dans quelques jours. L'album s'appelle très justement Bouge Encore, avec une superbe pochette signée par le dessinateur Zep. Pour les amateurs de bande dessinée, ça fait un double investissement pour le prix d'un. L'album est vraiment très très bon, et malheureusement, comme je vous le disais avant, l'interview qu'on va vous passer aujourd'hui sera malheureusement constitué que d'extraits, hein, de l'entretien que j'ai eu la chance de réaliser avec Bill. On vous passera d'autres extraits la semaine prochaine, mais l'intégralité ne pourra malheureusement pas être diffusée dans l'émission. Sans ça, il faudrait vraiment qu'on y consacre 5 shows exceptionnels. Ceci dit, Bill de Rheim, on va le retrouver tout de suite à travers ces extraits de l'interview, mais auparavant on va justement se passer un morceau issu de son prochain album. Je le répète, l'album s'appellera Bouge Encore et paraîtra sur le label Mosaïque, et le titre que je vous propose d'écouter en guise d'introduction à cette séquence qui lui est consacrée s'appelle Les Rames de l'âme, un Bill de Rheim en pleine forme, et ça nous fait bien plaisir.
J'ai si souvent pensé que j'étais au-delà de mes peines, après l'avoir coulé dans le ventre d'une baleine. J'ai toujours trouvé quelque part l'oxygène pour m'enfoncer plus loin au cœur de la zone urbaine. Le drame de l'âme, c'est qu'il faut bien mourir un jour. Alors la mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. Mais que de rame, c'est le loup. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En bruit d'amour. L'amour sans l'âme, peu de monde le sait, c'est la morsure de l'amour. Un feu sans flamme qui fait semblant brûler toujours. L'âme sans l'amour ne peut que mourir à petit feu. Le feu c'est un grand lac qui jarre, ne peut plus vivre à deux. Frappe l'âme, c'est qu'il faut bien mourir un jour. Alors la mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. Mais que de rame, c'est le loup. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En bruit d'amour. La vie de l'âme, je le proclame, n'est que la vie de l'amour. La mort dans l'âme, je rame. Je vole, je marche, je cours. Et quand je rame, j'ai mal, mais je sais bien qu'au fond, bientôt les rames emporteront mon âme au-delà de l'horizon. Le drame de l'âme, c'est qu'il faut bien mourir un jour. Alors la mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. Mais que de rame, c'est le loup. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En mourir d'amour. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. La mort dans l'âme, je rame. En mourir d'amour.
Alors Bill, pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement revenir sur la façon dont tu as découvert le blues?
La façon dont j'ai... Ben, Le premier choc, si tu veux, ça a été d'entendre Ray Charles, quoi. Tu vois, la première chose que j'ai entendue de la musique noire, c'est What I Say, tu vois. Et j'ai commencé à jouer de la guitare avec ça, et j'ai beaucoup écouté. J'avais tous les albums de Ray Charles et tout ça. Et c'est la première fois que j'entendais un noir crier comme ça, quoi. Enfin, un chanteur d'ailleurs, quel qu'il soit, il y avait un cri, il y avait quelque chose de très fort d'intérieur, quoi. Et peut-être à l'époque, si tu veux, c'était quand même la guitare commençait à être très en vogue, si tu veux. Alors j'ai adapté et j'ai recherché peut-être autre chose. J'ai écouté Big Big Bronzy, par exemple. C'était le premier guitariste chanteur que j'ai vu, bluesman, quoi, que j'ai entendu. Enfin, parce que je l'ai pas vu. Je l'ai vu plus tard en vidéo, mais j'aimais. Mais voilà. Après, bon, il y a eu des gens comme Led Belly, un bluesman qui. Bluesman, c'est Big Big Bronzy et Led Belly, par exemple, c'était des bluesmen, mais on les appelait minstrels, c'est-à-dire des ménestrels, quoi, hein, parce qu'ils chantaient du blues, mais ils chantaient aussi du gospel, ils chantaient des vieilles ballades américaines, tu vois, des work songs, des choses comme ça. Led Belly, c'était un spécialiste des work songs avec sa 12 cordes, tu vois. Et bon, c'est les premiers gens que j'ai entendus qui m'ont. Ronnie Mack et Sonny Terry aussi. Mais c'est surtout Bill Big, quoi, qui m'a fait vibrer, avec notamment un blues qui s'appelle Louise, qui c'est vachement. Qui est super.
Et justement, au-delà de la musique, est-ce que tu étais déjà à ce moment-là attiré par les thèmes que ces gens-là pouvaient aborder? Puisque, pour prendre l'exemple de Led Belly, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, qui s'en est inspiré après dans ses chansons. Donc, ça, c'était déjà une recherche que tu faisais également de ton côté?
Non, c'était inconscient, ça. Si tu veux, j'avais 15, 16 ans, quoi, tu vois, et si tu veux, c'était la musique, c'était quelque chose dans cette musique-là qui m'attirait, mais savoir quoi, je savais pas très bien, quoi, tu vois, c'était un flash, un plaisir, un bonheur de rentrer là-dedans, et donc ça m'a donné envie de chanter, de jouer de la guitare, etc. Mais c'était, il n'y avait pas cette recherche, philosophique ou mystique qu'il y a dans le blues, quoi, tu vois. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, tu vois. J'ai d'abord commencé par l'imitation, si tu veux, comme on imite un maître. J'ai cherché des positions de guitare, j'ai essayé de chanter un peu comme eux, etc., etc. Et petit à petit, bon, ça s'est affiné, c'est mon école, quoi, si tu veux. Le blues, c'est une école, quoi, tu vois, pour moi.
Alors, j'ai lu dans ta biographie que tu as fait des études de médecine. Est-ce que c'était quelque chose de compatible avec ta passion de la musique, ou alors est-ce qu'à un moment, voire assez rapidement, tu as dû faire un choix entre les deux?
C'est-à-dire, j'ai fait des études de médecine à Amiens, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. J'ai fait 6 mois, j'ai passé une année à Amiens à faire de la musique avec des gens, etc., plus que de la médecine, puis des conneries aussi, hein. Bon, mais après j'ai fait kinésie pendant 2 ans. Là aussi, j'habitais à Montmartre, si tu veux. Toute l'époque de mai 68, on a passé ça sur les marches du Sacré-Cœur, à chanter, à jouer sur à faire la manche sur la place du Tertre ou sur les marches du Sacré-Cœur, tu vois. Là par contre, il y avait déjà quand même une autre dimension. Il y avait la dimension beatnik, hippie, communauté, tout ça. Je vivais dans un appartement communautaire, tu vois, tout ça, où on avait un petit groupe qui s'appelait Wandering, quoi.
Alors justement, juste après 68, tu as fondé le TMS Folk Center. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir et me présenter ce concept?
Le TMS, c'était un... Si tu veux, c'était la suite d'une expérience de drogue, parce que sur la butte Montmartre, évidemment, à l'époque, en 68-69, c'était vraiment un petit marché pour la dope. Et si tu veux, l'appartement dans lequel j'étais était très actif là-dedans. Si tu veux, quand tu rentrais dans l'appartement, à droite, il y avait une cuisine. Et dans cette cuisine, il y avait une balance pour le shit et tout ça, quoi. Et bon, il y avait beaucoup de passages dans l'appartement. Excuse-moi, j'ai la gorge malade. Et donc, là, si, je sais plus la question.
Donc, on va parler du TMS.
Ah oui. Et si tu veux, j'ai eu un moment, j'ai eu un moment de prise de conscience où, si tu veux, j'ai rejeté la drogue et tout ça, quoi. J'ai flippé, comme on dit, quoi. Pendant plusieurs jours, je suis pas sorti, tout ça. J'ai commencé à me dire qu'il fallait arrêter, quoi. Et puis, j'ai rejoint des personnes qui étaient sur la butte aussi, qui avaient l'idée de faire quelque chose, de monter une association pour aider les drogués, quoi, les toxicos. Et c'est comme ça qu'on a rencontré un médecin avec lequel on a fondé un club de musique. Si tu veux, l'idée c'était de faire un club de prévention. C'était sous la tutelle de Sainte-Anne et de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On a monté un club, quoi. Mais là, ils nous laissaient, on était une quinzaine de musiciens, ils nous laissaient les salles pour faire, si tu veux, des concerts, des animations, enfin, du style des cours de guitare. Il y avait une salle, de permanence qui était ouverte tous les après-midi où tous les routards passaient, où on pouvait trouver des restos pas chers, on indiquait les restos pas chers, les petits hôtels pas chers, tu vois. Il y avait des disques de folk, de blues, et une fois par semaine, il y avait un concert qui dépendait assez étroitement d'autres lieux comme le Centre américain, du boulevard Raspail et du Dragon, et puis aussi de l'église américaine, la rue du Dragon et l'église américaine. C'était des endroits où il y avait des houtnanis, où les gens qui jouaient venaient s'exprimer, chantaient du folk, et surtout du folk, quoi. Et là, nous, on faisait un programme toutes les semaines. Et en dehors de ça, si tu veux, il y avait des soins à côté, si tu veux, pour les routards ou les gens qui étaient dans la rue, ou les gens qui avaient des problèmes de drogue et tout ça, quoi. Et voilà, le TMS, c'était ce lieu convivial de rencontre, si tu veux, ou en même free clinique, c'est-à-dire un lieu où on pouvait s'adresser à quelqu'un pour aller passer un passage, pour les passer quelques temps dans un hôpital, ou simplement demander comment faire pour arrêter, trouver de l'aide, etc. Ou même tout simplement se faire soigner d'un furoncle, hein, c'est pas. Mais bon, c'était l'ambiance Alice's Restaurant, quoi, si tu veux. C'était les années 70, quoi, et c'était un peu une des premières expériences de free clinic en France, quoi.
Je me suis fait avoir comme une oie et son jar qu'on engraisse. Je me suis fait avoir par le marché de l'art qui dégraisse.
Je me suis fait m'avoir par la foule en fanfare qui se presse. Si je m'en suis sorti, c'est que j'ai quelques amis que j'intéresse.
Ah, j'ai tout traversé la grande ville surpeuplée qui agresse. Le tunnel des vanités, le désert inhabité qui oppresse.
J'ai même perdu pied dans la rivière argentée des richesses. Si je m'en suis sorti, c'est que j'ai quelques amis que j'intéresse. Mon ami pour toi, oh, je veux encore déchirer la voix, faire sonner les accords. Je chante encore.
Appris à payer pour la vraie liberté et son ivresse. J'ai encore souvent mal si le prix du mental en souplesse.
Ah, je vis dans un pays où règne un grand buffet à promesse. Si je m'en suis sorti, c'est que j'ai quelques amis que j'intéresse.
tendresse, mon ami pour toi. Oh, je veux encore déchirer la voix, faire sonner les accords. Je chante encore, oh, je hurle encore sur trois accords. Je veux vous dire encore.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est pas une bande de vautours qui régresse. C'est pas non plus un parterre, tous les bras bien en l'air, tous en laisse. C'est toi qui applaudis sur tous les jours, maudit ma faiblesse. Si je m'en suis sorti, c'est grâce à toi, mon ami, qui m'intéresse. Mon ami pour toi, oh, je veux encore me déchirer la voix, faire sonner les accords. Je chante encore. Oh, lui on encore, sur toi d'accord, je veux blouser encore, je chante encore, oh lui on encore, sur toi d'accord, je veux blouser encore, je chante encore, oh lui on encore, sur toi
sont les premiers bluesmen français que tu as côtoyé, et est-ce que là aussi vous formiez une communauté?
Le premier c'est peut-être Patrick Verbeek, après Benoît, et puis Paul, mais oui, au début il y avait un petit quelque chose, ouais. Je me souviens qu'avec Patrick et Benoît on avait fait des réunions avec des journalistes et tout ça. Oui, il y avait quelque chose, mais bon, c'est pas, si tu veux, ça n'a jamais été évident, quoi. Si tu veux, comment te dire, on est tellement dans un contexte musical, vicié, quoi, par le showbiz, et moi, peut-être plus que les autres, parce que ça a marché assez vite, quoi, ça a bien marché, même trop, quoi, tu vois, même. Donc très vite je me suis retrouvé dans une bulle, quoi, faut dire ce qu'il y a, et bon, j'ai pas tellement pensé au côté justement c'est tout le passage où là j'ai appris ce que c'était que la solitude, d'une certaine façon, et que j'avais pris une mauvaise direction. J'ai pris la direction que prend tout le monde. Quand on a du succès, nécessairement, on se regarde le nombril et on voit plus beaucoup de choses autour, quoi, tu vois. C'est pour ça que je crois pas tellement au truc humanitaire, quoi, tu vois, sur ce plan-là, quoi. Mais bon, j'en suis vraiment revenu et ça m'a fait du bien de, si tu veux, de redescendre, quoi. Et que ça bon, j'ai grimpé très vite et j'ai descendu, bon, peut-être un peu moins vite, mais je suis descendu assez vite aussi, quoi. Pour arriver à un point où, si tu veux, dans les années 87, quoi, j'ai vécu de la musique, j'ai survécu de la musique, quoi, tu vois. Ça a toujours été dans la lutte, quoi, depuis 87. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Entre deux eaux. Bon, je remonte à la surface, je redescends, je remonte. Et c'est ma maladie aussi, je suis maniaco-dépressif, et j'ai vécu ça totalement dans la musique, quoi. Je faisais un album, hop, c'était super, etc. Puis ça marchait pas, je retombais, enfin, ça marchait pas. Aujourd'hui, si tu veux, ça serait pas mal, parce que j'ai vendu quand même dans une moyenne de 30-40 000 albums. Tu vois, au début, j'étais à 100 000 albums, après j'étais. Si tu veux, à partir du moment où ça a été plus difficile, j'ai commencé à penser moins solitaire, quoi, tu vois. Jusqu'à un point où vraiment il y a un paroxysme, et là je crois que c'est là où je deviens vraiment un chanteur, un artiste, un bluesman, si tu veux. C'est où je pense que je chante plus pour les autres que pour moi-même, si tu veux. Alors qu'avant, je chantais plus pour moi-même que pour les autres. Et qu'est-ce qu'un artiste, sinon celui qui s'oublie, si tu veux, pour laisser passer un message, ou une vibration, ou la beauté, tout simplement, quoi. Tu vois, et à partir du moment où tu retiens les choses pour toi, et tu en fais ta chose, bon, c'est plus de l'art, quoi, c'est du commerce, quoi. On en a des tas d'exemples aujourd'hui, quoi, avec des méthodes commerciales, notamment au niveau du blues dernièrement, quoi. C'est bon, quand on voit l'album promotionné monstrueusement de Johnny Hallyday, tu vois, et la façon dont ça a été lancé, etc., tu vois, là c'est de l'industrie, c'est plus de la musique, quoi. Quoique les gens qui jouent dedans jouent bien, quoi, c'est pas, je ne dis pas, mais si tu veux, l'objet en lui-même n'a pas de, enfin bon, moi j'aime bien Johnny, hein. J'aime bien le personnage, je le connais bien, j'ai pas mal discuté avec lui et tout ça. Mais si tu veux, c'est, tu peux pas, il est prisonnier d'un truc, quoi, tu vois, c'est une machine, quoi, une énorme machine, bon, et il est encore quand même d'une certaine sincérité lui-même au milieu de tout ça, mais il est pris dans un truc, quoi, et ça n'a rien à voir avec le blues, pour moi, si tu veux. Le blues, c'est une musique artisanale, quoi, tu vois, c'est une musique dans laquelle tu crées, tu dis, ou tu recrées, si tu veux. Il y a des tas de bluesmen qui ont chanté les chansons des autres, des blues des autres, mais à chaque fois ils y ajoutaient vraiment leurs pattes et leur façon de faire, si tu veux. Et bon, Johnny, c'est pas ce principe là quoi, tu vois, je veux dire, c'est une autre façon de faire, ça vient par le haut, quoi, tu vois, c'est pas par le bas que ça passe, quoi.
Cacher le malaise, on a vraiment peu de choses, mais faut pas que ça nous pèse. À la fin du parcours, bien ou mal dans notre peau, avec ou sans amour, pour lâcher le morceau, plus besoin d'ailleurs. Plus besoin de s'accrocher, plus besoin d'être à l'heure, le temps n'est plus compté, juste besoin d'un passeport pour une vie nouvelle, où coule de tous les bords du bon lait et du miel. Oh, ne crois surtout pas. Ma chanson soit triste, s'il parle de l'au-delà, c'est à cause d'un artiste qui chanta dans les rues, I'll be alright someday, lui au moins je l'ai cru, juste parce qu'il y croyait, c'était ta vie à moi. Tout ce qui chantait, il y avait plus que de l'espoir, et les blancs l'écoutaient, ils les appelaient frères au son de Miss Gibson, avec l'octogénaire, ils parlaient mieux que personne. I'll be alright. Someday I'll be alright. Oh, I'll
tous les martyrs en chantant Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia
avec tous les martyrs.
Donc par la suite, en 79, tu sors ton premier album sous ton propre nom. Donc là, quels étaient les thèmes abordés? Et est-ce que à ce moment-là, tu commençais à t'inspirer justement des textes américains?
Non, non, non. Enfin oui, il y avait bien sûr les thèmes du blues, quoi. Mais dans ce premier album, justement, j'ai beaucoup parlé de... par exemple, Baba Boogie, tu vois, c'était un peu l'expérience que vécue, quoi, avec le H et tout ça, dans les... Bon, puis un peu d'humour au niveau... Mais bon, il y avait des chansons sur... justement, un peu des gens que j'ai rencontrés en étant éducateur, si tu veux. Et puis des expressions aussi, tout un vocabulaire, par exemple... Dans « Je me sentais mal », il y avait des expressions comme « j'affiche complet »,« afficher complet », tu vois, ça veut dire être... ça dit bien ce que ça veut dire, j'aurais pas l'exprimer d'ailleurs autrement. Tu vois, le mec qui affiche complet, c'est bon, voilà. Et si tu veux, ça crée un langage, Et finalement, c'était le début de cette communion, si tu veux, avec des gens qui étaient, pour moi, très très lucides par rapport à la société, qui essayaient de s'en échapper par la drogue, qui arrêtaient, qui vivaient des moments très durs. Et bon, moi, je vivais ça d'une autre façon, si tu veux, et je le transcrivais. Je le vivais pas encore, justement, peut-être. J'étais encore le sauveur, quoi, celui qui aide. Et par la suite, évidemment, avec tout ce qui m'est arrivé dans la musique et tout ça, j'ai été plutôt dans leur botte, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est vrai que j'ai pris des médicaments et tout, pour la maladie et tout ça. Hein. Bon, mais finalement, les gens qui se droguent, c'est des malades, quoi, ils cherchent à ne pas être mal, quoi. Ils cherchent un bonheur qu'ils ne trouvent pas là où ils sont. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça que j'ai... les premiers textes que j'ai faits, c'est dans cet esprit, quoi.
Le succès...
Qui était certainement aussi des textes de l'époque de chanteurs américains, hein, je veux dire, parce que tout ça, c'est un tout. Hein, pour moi, si tu veux, les 68-69, c'est une révolution culturelle qui vient d'un mouvement mystique, d'un mouvement spirituel, si tu veux. C'est pas pour rien que c'était l'aspect communautaire qui faisait qu'on recherchait, tu vois, une libération de l'esprit et tout ça, tu vois, je veux dire. Bon, pour moi, c'était ça, quoi, tu vois. Alors, bon, la musique en faisait partie. La musique de l'époque, les années 70, c'était justement, ça venait très très loin, très fort du blues, quoi. Tu vois, parce que le blues, bon, c'est quelque chose de parallèle, quoi. Tu vois, les Noirs, ils ont toujours été parallèles. Et nous, ce qu'on était, c'était parallèle, quoi. Tu vois, on voulait pas entrer dans un système. Les Noirs voulaient peut-être y rentrer, si tu veux, mais ils en étaient tellement rejetés qu'ils étaient obligés d'être parallèles. Nous, on a décidé parce qu'on voulait pas y rentrer, mais finalement, on s'est retrouvés parallèles aussi. Et bon, on a vécu un peu les mêmes choses, quoi, tu vois. Parce que, bon, si tu veux. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé sur le plan de la musique, faire chanter du blues en français, en étant blanc, aujourd'hui, si tu veux, alors qu'il y a des rappeurs black et beurre qui chantent leur forme de blues, si tu veux, faire chanter ça, si tu veux, c'est vraiment, c'est un peu comme, comment il s'appelle, là j'ai fait un concert avec Little Bob. Little Bob, lui, il est blanc, il est rocker, donc c'est pas un problème, mais il chante en anglais en France, quoi, si tu veux. Mais n'empêche que tu vois Little Bob, tu te dis ça, c'est authentique, plus authentique que Johnny, si tu veux. Tout en étant, Johnny a une authenticité, je veux Mais je trouve que Little Bob a plus de feeling et plus d'authenticité, tu vois. Bon, Little Bob, il chante quelque chose de... C'est un cri de détresse, un cri de... Tu vois, ça vient du fond. Johnny, c'est un cri qui vient du haut, c'est un cri d'écrasement, quoi, tu vois. Johnny, c'est un vainqueur, c'est un... Bon, il a eu du mal aussi, hein, mais c'est un vainqueur, quoi. Et il arrive enfin à la fin de sa vie, là, quoi. Il s'aperçoit qu'il est vainqueur, qu'il crie vraiment quelque chose, où il est vainqueur. Mais en même temps, il s'aperçoit qu'il est pathétique, quoi, parce qu'il est en train de vieillir, et tu vois. Alors, quand même, il chante quand même une forme de blues, quoi. Tu vois, il y a quelque chose d'authentique dans sa démarche. Et au fond, tu vois, en parlant comme ça, moi, je peux pas en dire du mal de lui. Je dis du mal du système, de la musique industrielle, mais pas de lui, parce que lui, il a fait ce qu'il a pu, il a chanté ce qu'il a pu, il a donné ce qu'il a pu, et il l'a bien donné d'une certaine façon. Voilà. Et j'en parle beaucoup parce que c'est un sujet d'actualité, hein. Mais d'un côté, je vais dire, ça n'est pas ça, et de l'autre côté, je dis lui quand même. C'est ça, quoi, tu vois. Et je sais plus à propos de quoi on parle, mais c'est une histoire de philosophie et de feeling et tout ça. Et c'est le plus important au fond, hein, je veux dire. C'est ce qui fait la vie, quoi, tu vois. Ce que tu chantes dans le blues, c'est ce que tu vis. Si c'est pas ça, c'est pas du blues, quoi, tu vois. Hein, si c'est, il y avait une vieille phrase qui disait, enfin, blues is life, quoi. C'est tout simple, mais c'est tout à fait ça.
Donc le succès pour toi est venu quand même relativement vite, dès le troisième album, avec un tube considérable, Babylon, tu déconnes. Comment...
Le premier tube, c'était... C'est pas un succès. C'est comparé à ce, au truc d'aujourd'hui, et même à l'époque. Bon, quelques temps après, il est venu Goldman, et bon, ça a été des succès bien plus gros. Mais si tu veux... Le premier truc qui m'a fait vraiment émerger, quoi, si tu veux, c'était quand même le blues. C'était faut que je me tire ailleurs, tu vois, hein. Et c'était vraiment très blues. Et je l'ai repris dans le dernier en changeant les paroles et bon, changeant la rythmique, les paroles et beaucoup de choses. Et c'était bluesy, ça. C'était vraiment bluesy. Et voilà.
Mais comment tu fais face à un tel succès? Et c'était quelque chose d'attendu? Tu t'y attendais?
Non, c'était pas recherché, vraiment. Moi, mon but dans la vie, c'était de chanter. Tu sais, j'ai fait des tournées avant en Scandinavie, au Danemark, à Amsterdam et tout ça. J'ai joué dans des endroits à Amsterdam, un folk song café, par exemple. Et mon rêve, là, je voyais des mecs qui vivaient de ça. Il y avait un black, une fois, que j'avais vu. Il vivait de ça, il jouait sur une guitare à quatre cordes et il chantait un espèce de blues très particulier que j'avais jamais entendu ça dans les années 60, tu vois. Hein. Et il m'avait. C'était peut-être le premier bluesman que j'ai vu d'ailleurs. Mais c'était pas vraiment du blues, je sais même pas comment dire ce que c'était ce qu'il chantait. Mais c'était folk, quoi. Et quand je voyais ce mec-là, je me disais, putain, mais c'est ça que je veux être, quoi, tu vois. Je veux vivre de ça, mais comme ça, quoi. Tu vois, jouer dans n'importe où, comme ça. Bon, c'était un rêve, quoi, mais absolument pas possible, hein. Et si tu veux, bon, quand j'ai fait ça dans cet esprit-là, tu vois. Moi, l'Olympia, bon, c'est, bon, quand c'est arrivé, bon, ouais, j'étais, ah, c'est cool, cool, mais tu vois, je voyais pas du tout ce que j'étais très, très heureux, tu vois. Et je me suis laissé prendre au jeu, si tu veux. À partir du moment où tu as du succès, tu commences à te regarder d'une autre façon. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil de la vie, tu vois. C'est-à-dire que tu as réussi quelque chose, tu le communiques, tu le fais, c'est, ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis tu deviens un autre, tu vois. J'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent en quelques temps. J'ai dépensé des sommes astronomiques, j'ai payé des voitures, des amplis aux musiciens, tu vois. Et puis j'affichais complet, quoi, tu vois. Je veux dire, j'étais complètement la masse, quoi.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. joue comme ça, franchement limite.
Y'a comme un voile en l'air qui fait que tout est gris.
Y'a des jours où les heures devraient passer plus vite. Stop à m'jumure pour la claustrophobie. Encore trois plombes à tirer dans ce bureau qui me sent par les trous de nez.
Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs.
C'est pas une vie d'être toujours enfermé.
Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs.
Dans un avion qui n'est pas en papier. Y'a des jours comme ça où je me demande si cette vie-là vaut bien la peine d'être vécue. Y'a des jours bien trop longs qui font gonfler les glandes. Le quotidien me pèse, je me sens de vieux bossu.
Mais un grand papier ne plaît plus. J'en ai plein d'eau, plein les bottes et plein.
Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs.
C'est pas une vie d'être toujours enfermé.
Faut que je me tire ailleurs.
Dans un avion qui n'est pas en papier. Malgré tout, faut pas trop que je m'affole. Je suis pas vraiment seul dans ce vieux monde perdu. Avec Albert, on a 100 000 heures de vol. Quand ça turbule, on s'accroche et le vol continue. Mon conseil, y'a pas de soucis, mais qu'il le groupe par moment, je diminue.
Faut qu'on se tire ailleurs. Faut qu'on se tire ailleurs.
C'est pas une vie d'être toujours enfermé.
Faut qu'on se tire ailleurs.
Dans un avion qui n'est pas en papier.
Faut qu'on se tire ailleurs. Faut qu'on se tire ailleurs.
Dans un avion qui n'est pas en papier.
C'est Bill de Rem sur RDL, route 66. Bonsoir ou bonjour ou bon matin, les amis.
Quand l'avion traverse les nuages, on ne voit plus rien, ni la ville en bas, ni la jungle sauvage. Mais c'est très bien, c'est un instant pour effacer toutes les illusions dépassées. Comme on largue un trop lourd bagage pour monter plus léger. L'avion monte au-dessus des nuages. Il n'y a plus rien que le ciel sans bornes et sans rivage. Le ciel bleu, c'est du bien. Je ne connais rien d'évident comme la clarté du firmament. Au-dessus des nuages, je suis un goéland. Quand l'avion vole, 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 au-delà des nuages, il n'y a plus rien.
rien que le calme d'après tous les orages. Sans hier, sans demain, je ne connais rien de plus beau que le royaume des oiseaux. Au-delà des nuages, il n'y a plus de mots. Oh, plus de mots. Quand l'avion vole. Plus rien, rien que la vie et son mystère. Un mystère sans fin, c'est un instant, rien que vous pensez à saisir ce qu'on ne veut pas oublier. Un moment pour penser qu'on va les retrouver. Un moment pour penser qu'on va tous les retrouver. Quand l'avion vole, 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 quand l'avion vole,
quand l'avion vole. Un artiste magnifique et un homme ô combien attachant, c'est Monsieur Bill de Rem, à qui nous consacrerons une deuxième émission. Ce sera la semaine prochaine, toujours à l'occasion de la sortie dans quelques jours de son nouvel album qui s'appelle Bouge Encore et qui paraîtra sur le label Mosaïque. Alors ce disque est très généreux à l'image du bonhomme, hein, puisqu'il dure plus de 75 minutes. Il y a 20 morceaux, un bon nombre de vieux titres de Bill qu'il revisite complètement à cette occasion, mais également, comme il se doit, quelques inédits. Comme je vous le disais en début d'émission, malheureusement je n'aurai pas le temps deux émissions de passer l'intégralité de l'interview puisque celle-ci était vraiment très longue. Par contre, vous pouvez la retrouver sous la forme écrite avec des photos à la clé évidemment sur notre site internet sur laroute66.free.fr. Bill de Rem a également un site internet billderem.com ou alors un MySpace comme tout le monde, myspace.com/billderem. Je tiens encore une fois à le remercier pour son accueil, lui et son épouse Florentine. Alors si aujourd'hui il nous a beaucoup parlé de ses origines musicale et également de sa vision du blues, la semaine prochaine il reviendra évidemment plus en détail sur ce nouvel album ainsi que sur quelques activités annexes, notamment dans le milieu associatif. On se quitte en musique avec un artiste que vous retrouverez également dans Route 66 d'ici quelques semaines par le biais d'une interview que je cours enregistrer d'ici quelques jours. C'est un coup de cœur, l'album s'appelle Trick Bag et c'est monsieur Ian Kent, un personnage également très intéressant, tout droit sorti d'un roman de Jack Kerouac. C'est quelqu'un qui a parcouru les USA en stop. Enfin, il y aura plein de choses à découvrir sur ce bonhomme, sur lui et son groupe The Immigrants. Le titre qu'on se passe pour finir l'émission est Time Gone By. À bientôt sur le 103.5 FM Radio RDL, à l'écoute de Route 66 évidemment. Salut.
Salut à tous et bonne route à la semaine prochaine.
Are broken on the butterfly's wings. The little tin soldier is missing an eye. A car that won't start and a plane that can't fly. It's all that remains of the time gone by.